Chapitre 8. L'autre Vidal. Il était évident que Martin Dumas ne venait pas ce soir au hasard dans cette maison. Depuis que l'affaire de l'assassinat du père Stoven était en cours, il venait chez Fernand, le musicien, et passait sa cachette en longues heures à étudier, par les moyens à lui, les singuliers locataires de cette maison exceptionnelle. Il avait pu ouvrir les portes des appartements et, pendant l'absence des locataires, fouiller chez eux en parfait cambrioleur. Mais il n'avait pas trouvé grand-chose d'intéressant pour lui. Évidemment, ces gens-là se méfiaient et ne gardaient chez eux, ici du moins, rien de compromettant. Cependant, Martin Dumas ne se découragea pas. Il se savait sur la bonne piste et il n'était pas homme à laisser échapper son gibier. Mais il ne suffisait pas d'être entré chez ce locataire pendant leur absence. Il voulait assister à un de leurs conciliabules nocturnes. « Depuis que le souterrain de la rue Lamartine est détruit, dit-il à ses hommes, nos gaillards ne savent plus où se loger pour se réunir. Il n'est pas toujours commode de faire le voyage de Fontainebleau. Ce doit être dans cette maison qu'ils tiennent leurs assises. Pour le savoir, il n'y a qu'à pénétrer chez eux. » Cette entreprise n'allait pas sans offrir de grands dangers. Mais le danger était une chose qu'affectionnait particulièrement Martin Dumas. Il pénétra donc ce soir chez les locataires et assista, invisible, à leur conciliabule. Qu'entendit-il ? Il ne nous le dit pas. Mais quelques instants après nous avoir laissés dans l'anxiété, il revenait. Prosper, dit-il. Vous allez poster deux hommes en tenue d'agent qui me suivront dans la rue, à quelques pas. Bien, chef. Et vous, Julot, vous allez descendre avec moi et vous ne me reconnaîtrez pas. Mais vous vous arrangerez pour provoquer, chercher querelle, enfin, obliger les agents à intervenir et arrêter l'homme que je vous désignerai. Et vous le ferez conduire au poste et garder avec vous. « Bon, chef. » Peu après, un bruit de pas et de voix dans l'escalier nous apprenait que la réunion avait pris fin. Martin Dumas descendit avec Julot. Prosper était déjà parti. Les conjurés, les bandits, nous le savons, ne passaient plus par le souterrain à présent obstrué et ils sortaient tous par la porte donnant dans la rue Milton. Mais ils sortaient par groupes et se dispersaient. Martin Dumas s'était posté dans le fond de la cage de l'escalier où se trouvait une sorte de réduit dans lequel la concierge mettait des ustensiles de ménage. De là, absolument invisible, sans même que sa présence pût être soupçonnée, il put voir chaque groupe qui sortait, reconnaître chacun des hommes à la clarté du bec de gaz du trottoir qui pénétrait par l'entrebâillement de la porte chaque fois qu'on l'ouvrait. Et comme Martin Dumas vit celui qu'il guettait sortir, il quitta promptement son poste, son coin d'affût, et il sortit dans la rue. Chose facile, parce que les affiliés, en s'en allant, ne refermaient pas la porte derrière eux. Dès qu'il fut dans la rue, Julot lui emboîta le pas. Martin Dumas lui désigna l'homme. La consigne fut parfaitement exécutée. Julot, peu après, au moment où cet homme qui lui était désigné s'engagea dans la rue Rodier, presque toujours sombre et déserte, employa le moyen classique, le bouscula, l'invectiva, le prit au collet. Le compagnon de la victime, tout d'abord, essaya de lui prêter main forte, de le secourir. Mais quand il vit arriver les deux agents, Il prit aussitôt rapidement la fuite. L'homme fut emmené au poste de la rue de la Tour d'Auvergne avec son agresseur. Le lendemain matin, Prosper obtenait du parquet qu'on le fit revêtir pour complément d'expertise des faits que l'on avait saisis le premier jour de la disparition d'Éloi Vidal dans son box du Crédit Bordelais. L'homme arrêté hier soir fut conduit au dépôt, au service anthropométrique, et malgré ses véhémentes protestations, il dut se plier aux formalités d'usage. Contre son gré, malgré une défense énergique de sa part, il fut également forcé de revêtir le veston du garçon de recette Éloi Vidal et photographié dans ce costume. Sa photographie fut comparée à l'une de celles que la femme du garçon de recette avait données pour faciliter les recherches. Dans la matinée, on fit venir Madame Vidal, sa fille, son futur gendre, quelques amis, et on les rangea dans une salle de la préfecture de police. Cette salle donnait sur un couloir. Dans le couloir, on fit rapidement passer l'homme arrêté et portant les effets du disparu. Aussitôt, des cris retentirent. « Mon mari, Éloi ! Mon père ! Vidal, Vidal !» La preuve était faite. Pour Martin Numard, c'était cet homme qui ressemblait à Éloi Vidal, avait endossé son uniforme et achevé sa tournée le jour de la disparition du malheureux garçon de recette. L'homme fut donc gardé à la disposition du parquet. Cet homme assez fort, barbiche grisonnante, qui, taillé, lui donnait l'aspect d'un vieux militaire, était le mari de la marchande de meubles de la rue Lafayette, mari qu'on ne voyait jamais au magasin. Martin Dumas passa peu après cette confrontation dans la rue Lafayette. Il vit que le magasin était ouvert, mais rien n'était préparé pour la vente. Cependant, il entra et demanda le prix d'un meuble quelconque qu'il avait vu la veille. Le garçon avait l'air affolé. « Je ne peux rien vous dire, monsieur, » fit-il. « Faudra que vous repassiez plus tard parce que le patron n'est pas là. » « La patronne non plus. Mais à quelle heure reviendra-t-elle »« Je ne peux pas vous dire. Elle est partie avec le patron pour aller voir un parent malade. Je suis seul au magasin. » Cela suffisait à Martin Dumas. La marchande de meubles était en fuite. Pendant ce temps, Prosper s'était rendu au petit magasin d'antiquités. Il était clos et une pancarte collée au volet portait « Fermé pour cause de mariage ». La bande avait eu vent de l'intervention du roi des détectives. Elle s'envolait comme une nuée de moineaux au premier coup de fusil. Monsieur Basilesco, le marchand de reconnaissance, lui aussi voulut s'enfuir. Mais comme il prenait dans sa caisse, dans son coffre-fort, tout ce qu'il avait de précieux, qu'il le mettait dans une valise, des agents firent irruption chez lui. Et avant qu'il eût eu le temps de se défendre, de se servir du revolver dont il s'était armé, on lui passait les menottes. M. Basilesco n'essaya même pas de protester. Il fut, après son mouvement de révolte et de défense, pris d'un abattement profond, accablé, anéanti. « Encore un coup de Martin Dumas, » dit-il. « On ne peut pas lutter contre cet homme-là. » Et il se laissa aller à la fatalité. Au cours de la perquisition que Martin Dumas fit dans l'appartement de M. Basilesco, il trouva, parmi d'autres papiers qu'on prenait pour les étudier plus tard, une enveloppe de lettres qui attira son attention. Cette enveloppe n'avait en elle absolument rien de remarquable. C'était une enveloppe de papier bleu très commune. Elle portait comme inscription ces lignes: Mademoiselle Gabrielle de Bellery, artiste lyrique, cité d'Antin, Paris. Elle gardait un timbre belge dans un coin, et ce timbre était oblitéré par un tampon qui permettait de lire le mot de Bruxelles. Jusque-là, rien de bien extraordinaire. Monsieur Basilesco avait pu avoir des clients qui lui écrivaient de l'étranger, d'Allemagne, de Belgique, de Russie. Et la présence d'une lettre au nom de Gabrielle de Bellery n'avait rien non plus d'étrange, puisque cette jeune artiste était, sinon parente, du moins en relation de famille avec le trafiquant de reconnaissance. Ce qui retint l'attention du roi des détectives, ce fut l'écriture de la suscription grosse, empâtée et lourde. Il prit l'enveloppe qui ne contenait pas de lettres et en compara l'écriture avec quelques lignes que l'on avait trouvées dans le tiroir d'Éloi Vidal. L'écriture de l'enveloppe était exactement la même que celle de Vidal. On ne pouvait en douter, c'était une lettre écrite par le garçon de recette. Le cachet qui oblitérait le timbre portait une date visible. Cette date était sinon très récente, du moins bien postérieure à la disparition du garçon de recette. Donc, si Éloi Vidal avait mis à la poste une lettre depuis qu'on le considérait comme défunt, c'est qu'il n'était pas encore complètement mort. Martin Humart, très positif, n'admettait pas les défunts qui reviennent et jettent des lettres à la poste. D'ailleurs, du premier jour, il gardait la conviction que le garçon de recette n'avait pas été assassiné, mais qu'on le retenait prisonnier, ou plus simplement qu'il avait levé le pied. Cependant, Martin Humart garda pour lui encore cette nouvelle découverte. C'est-à-dire qu'il n'en fit part qu'à Prosper, Julot et Philippe, qui, bien qu'il souffrît encore, ne voulait pas priver en ce moment son chef de son précieux concours. Puis, quand à Paris tout fut bien terminé, qu'il eut mis sous bonne garde ses prisonniers, rassuré sur ce point, il résolut de tenter le dernier coup, frapper à la tête. Pour lui, il venait d'acquérir une fois de plus la certitude, ces gens faisaient partie d'une bande puissante, fort bien organisée. Le chef, celui qui commandait, qui dirigeait tout, c'était cet homme, ce singulier officier en retraite, le commandant Raymondin. Avant la nuit, Martin Humart roulait dans son automobile vers Fontainebleau. Il voulait aussi surprendre le commandant avant qu'il ne pût s'enfuir en apprenant l'arrestation de ses complices. Des hommes à Martin Humart n'avaient cessé de surveiller la maison du commandant. Il en envoya d'autres prêter main forte, établir une souricière, préparer le coup et empêcher la fuite en attendant sa venue.